Si on voit l'image que ce pape a aujourd'hui, c'est l'église des pauvres. Il a dit « je voudrais une église des pauvres, une église pauvre pour les pauvres ». On voit à travers les gestes qu'il fait qu'il est près des pauvres, il fait les lavements de pieds, etc. Tout un tas de gestes qui plaisent beaucoup, dit « formidable, voilà, voilà ce qu'il nous fallait, voilà ce que les catholiques attendaient, et toute l'humanité d'ailleurs, tout entière attendait ça ». C'est le pape des pauvres.
Je dirais oui et non. Cette attitude de se préoccuper avec les pauvres, c'est bien, hein, tant mieux, hein, c'est une bonne chose. Mais ça reste dans les limites de la doctrine sociale de l'Église. Dans les limites, disons, de l'attitude traditionnelle de l'Église catholique depuis très longtemps, sinon depuis des siècles, envers les pauvres en tant qu'objet de pitié, objet de charité, objet d'aide, objet d'assistance, etc., etc. Voilà, l'attitude traditionnelle, et je pense que Bergoglio est un peu dans cet esprit-là. Hein, dans cet esprit-là.
Ce qui compte dans ce que vous dites, c'est le mot « objet ».
Voilà, parce que, justement, la théologie de la libération voit les pauvres comme sujet historique, comme sujet de sa propre histoire, comme acteur de sa propre libération. C'est une rupture. C'est une rupture avec cette attitude traditionnelle. Et je pense que Bergoglio représente la tradition. Hein, la tradition, il faut effectivement, l'Église s'occupe des pauvres, se préoccupe. Bien, c'est mieux qu'une Église qui ne se préoccupe que des riches, hein, ou une Église qui pense que les pauvres sont maudits parce qu'ils n'ont pas accumulé du capital, comme certaines sectes protestantes, hein, bon, évangéliques. Bien, mais enfin, ça reste très très limité. Et ça n'a rien à voir avec l'esprit de la théologie de la libération.
Qui était et qui est toujours, que les pauvres ou les dominés prennent leur destin en main, illustre une phrase célèbre qui était et qui est toujours « l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes ». C'est un peu la même chose.
C'est très proche, tout à fait. Je pense qu'il y a une affinité, disons, entre cette idée centrale du socialisme, du marxisme, et cette idée de pauvres comme sujet de leur propre libération. Hein, ils sont très proches. Bon, sauf qu'à la place du prolétariat, il y a les pauvretariats.
Hein. Le
pauvretariat. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est proche aussi. Hein. Et ce n'est pas un hasard si une partie des gens influencés par la théologie de la libération, une partie des théologiens, s'est considéré socialiste, hein, ou était très proche des idées socialistes, ou s'appropriait de certaines idées de Marx. Hein. Bon, donc ça correspond aussi à cette affinité.
Je crois que le peuple va prendre le pouvoir de toute façon.
Camilo Torres, prêtre colombien.
Je crois que le peuple, qui est la majorité, a le droit au pouvoir.
Février 1965.
Il faut plutôt demander à l'oligarchie comment est-ce qu'elle va donner le pouvoir. Si elle va le donner d'une façon pacifique, je crois que nous allons le prendre d'une façon pacifique. Mais s'il ne va pas le lâcher, s'il ne va pas le donner d'une façon que violente, alors nous allons le prendre d'une façon violente.
Michael Levieux, racontez-nous en quelques mots l'histoire de cette théologie de la libération.
Oui. Alors, la première chose qu'il faut dire, je pense, c'est que la théologie n'est pas le début de cette histoire. Parce que cette histoire commence au début des années 60 avec des jeunes catholiques, notamment au Brésil, qui commencent à développer un discours nouveau, très radical, anticapitaliste, qui commence à poser le thème de la libération. Et qui vont s'engager dans des mouvements sociaux, dans des mouvements paysans, dans des mouvements de lutte, etc. Avec ça, ensuite viendront les communautés des bases, ensuite la pastorale de la terre, etc. Donc il y a une pratique de chrétiens de gauche, ou j'appelle ça le christianisme de la libération. Bon. Ces mouvements donc apparaissent au début des années 60, d'abord au Brésil, après il s'étend dans tout le continent. On voit en 65-66, un prêtre colombien, Camilo Torres, participait à la guérilla et il est mort en luttant.
Ah, armé, bien, c'est le...
Un prêtre armé, Camilo Torres. Exactement. Bon, et comme lui, il y a eu d'autres. Au Brésil, les Dominicains, en 68-69, ils n'ont pas pris les armes, mais ils ont activement soutenu la résistance armée à la